L'air du jeu, votre rendez-vous qui parle de jeux vidéo, d'art, de bidou. J'espère que vous allez très très bien en ce week-end frisquet. On est parti pour une heure d'émission aujourd'hui. La Dream Team, voilà, bah un des membres de la Dream Team arrive. Puisqu'aujourd'hui la Dream Team, c'est l'association L'Art et la Bidouille qui est venue nous parler d'art et de bidouille. Salut ouais. Julie, salut Anne-Claire, ça va?
Salut.
Et on a Griff qui arrive juste à l'instant.
Oui, bonjour.
Bonjour. Juste à temps pour le début. Alors on a un peu changé de programme, hein, les amis, vous inquiétez pas, mais on s'adapte. Ça, tout va bien se passer. Normalement, on devait avoir la source qui devait passer, mais il y a eu un petit souci de dernière minute. Il sera pas là aujourd'hui. Mais du coup,
on essaiera de l'avoir un autre jour.
Oui, on essaiera de l'avoir un autre jour. On va parler dans un premier temps de Google, voilà, parce que j'ai envie de vous parler de Google, j'ai envie de vous faire peur un peu. Vous savez que ceux qui sont habitués à cette émission savent que Google, pour moi, c'est l'empire du mal, et je vais vous donner encore quelques petites infos, on va en débattre, je vais avoir vos réactions sur Google et l'empire du mal. Ensuite, ça sera l'art et la bidouille. Alors, qu'est-ce que vous nous avez prévu pour aujourd'hui, l'art et la bidouille?
Alors, on va parler plutôt de vidéo aujourd'hui. En fait, on s'est dit qu'on allait faire des émissions par thème.
D'accord.
Et aujourd'hui, ce sera la vidéo.
Ok, parfait.
Voilà.
Et on finira donc cette émission avec le sac de news. Voilà, ça vous va comme programme?
C'est parfait.
Parfait, allons-y.
Très bien. Eh bien, alors attendez, il faut que je fasse mon lancement là. Il faut que je retrouve mes petits automatismes. Tac, vous êtes prêts? On va y aller? Allez, c'est parti.
Hadouken!
Voilà, le lancement Street Fighterien. Bon, alors, Google. Il faut savoir que Google là vient de mettre en place un nouveau projet qui s'appelle Google Home. Est-ce que vous en avez entendu parler?
Est-ce que c'est un rapport avec les smart homes, justement? Les maisons intelligentes?
Oui.
Oui, ouais, oui.
Yeah, il est là, il est dans la place. Oui, oui, c'est ça. Il y a un gros rapport avec ça. Allez, je développe un petit peu. Google Home, en fait, c'est un nouveau projet lancé par Google. C'est un projet avec un haut-parleur, en fait, intelligent.
Nous sommes espionnés.
Bon, voilà, on peut dire ça. Quelque part, alors en fait, si vous voulez, ce haut-parleur, bon bah, il peut diffuser de la musique et autres, donc ça c'est sympa. Chez vous, vous êtes là, vous faites, hey, passe-moi le morceau de, j'en sais rien, de ce que vous voulez, de Elvis Presley, voilà.
Hop. Allume Radio Canu à midi voilà. Le samedi.
Exact.
Il va le faire. Donc en soi déjà, sur le principe de base, vous en pensez quoi? C'est déjà sympa, non?
C'est un genre de Siri augmenté,
ouais,
en fait.
C'est
ça. C'est exactement ça, en fait. Et le truc qui est encore plus puissant, c'est que cette enceinte, elle est connectée à tout ce qui est lié à Google. Mmh. D'accord? Vous voyez à peu près où je veux en venir ou pas trop?
C'est-à-dire tout l'Internet, de manière générale.
Voilà, c'est-à-dire que cette enceinte connaîtra toute votre vie,
oui, voilà.
En théorie, et elle pourra donc vous aiguiller sur votre vie, ça pourrait être une sorte d'assistant. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez alors de ce nouveau projet qui s'appelle Google Home?
Ça reste le débat un peu de toujours, de l'utilité. Enfin, dans un sens, c'est super utile parce que comme les objets connectés Nest ou les thermostats, enfin, je pense aux thermostats de Nest qui permet de récolter des données et puis du coup après, enfin, d'automatiser, de réguler la température dans la maison, donc de faire des économies, c'est super intéressant. L'idée de la même façon, là, tu peux te dire, genre, j'aurais plus besoin de chercher, ça va automatiquement, genre, quand je vais rentrer, je vais avoir de la musique qui me plaît directement, ouais. C'est trop
c'est
cool. Enfin, y a des côtés hyper intéressants, mais d'un autre côté, ça reste assez flippant de se dire, que quelque part, c'est une intelligence artificielle qui réfléchit pour toi et t'as pas la main sur ce qu'elle va faire de tes informations, parce que derrière ils vont peut-être très bien les vendre à des plateformes musicales.
Il y a des chances,
ouais. Les proposer de la musique qui nous plaît, enfin.
Ouais, ouais. C'est toi, Julie?
Bof.
Pareil aussi?
Moi, je suis allée à une conférence cette semaine sur la gouvernance de l'Internet. Et donc, j'ai vu tous ces trucs des GAFAM, donc, Google,
Amazon, Apple,
tout ça, et à quel point ils sont.
Et Microsoft aussi.
Ils ont le monopole mondial sur tout, et j'avoue que bon, ça fait vraiment froid dans le dos. Déjà, par l'interface de nos écrans. On a déjà nos téléphones et nos télés ou nos ordis ou avec lesquels on passe pas mal de temps. Et en plus, avec une espèce de présence d'intelligence artificielle chez nous. Enfin, après, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Après, il n'y a pas de, comment dire, c'est pas des, C'est pas des méchants, Google, quelque part. Ils essayent pas de nous manipuler tout ça. Ils pensent bien faire, donc ils essayent de nous proposer ce qui est censé nous plaire. Mais bon, il y a aussi la démarche commerciale qui est derrière, et c'est plutôt une grosse démarche commerciale. Ils essayent de faire des sous avec de la publicité, des choses comme ça. Mmh. Donc bon.
T'es mitigé.
Ouais, je suis dans une semaine où je me méfie de Google, en fait.
Et toi, Seb, alors ?
Bah, moi, je suis à fond pour ça, en fait. Parce que je trouve ça, la domotique et tout ça, je trouve ça trop bien.
Ouais.
Et je trouve que c'est vraiment l'avenir, en fait, de la maison. Moi, j'avais écouté un podcast, à un moment, le gars disait, voilà, quand je me lève, la lumière s'allume, tout doucement, la musique se met en place, il y a quelqu'un qui lui lit le journal, une sorte de série, quelque chose qui lui lit le journal et les news. Et t'as même la machine à café qui se met en route et qui allume, qui fait ton café.
C'est, voilà, c'est Gromit.
Ah, mais
voilà.
Ça, c'est l'empire du feignant, en fait. T'as rien à faire, au final.
Non, parce que du coup, tu passes ton temps à faire d'autres choses, tu vois. Enfin, je pense, en fait, il faut plutôt voir gain de temps, donc essayer de combler ce temps en faisant d'autres choses, peut-être sociales avec sa famille, par exemple.
Moi, sur la technologie, j'ai aucun problème. Si tu veux l'avancée technologique, je la trouve intéressante. Le truc, c'est plus, c'est encore Google qui fait ce truc-là.
Ouais, c'est le monopole, quoi.
Voilà, c'est ça. Mais effectivement, genre, il y a la luminothérapie. J'étais allée voir aux États-Unis, ils avaient un labo où en fait ils faisaient des expériences un peu sur les gens, genre si tu te réveilles et que la lumière est de telle couleur, et ben en fait tu vas te réveiller avec telle humeur, et enfin il y a plein de
génial.
De domaines comme ça super intéressants sur le cerveau.
Alors après tu veux y aller?
Non, mais je t'en prie.
Okay. Oh, c'est mignon, ils sont des polites.
Il y a deux, il y a Google, mais il y en a d'autres aussi. Bah, par exemple Apple, sur la dernière version de son OS, il y a HomeKit qui permet, c'est un petit peu l'alternative, et donc on sait un peu que c'est pas vraiment le même business, les données sont plus protégées en théorie sur Apple, évidemment on pourra jamais vraiment le savoir, hein.
Ouais.
Mais a priori c'est pas vraiment le même business, donc si on a un peu de ces données, qu'on est un petit peu frileux là-dessus, je pense que l'option Apple peut être intéressante aussi.
Moi j'ai un vrai problème avec le monopole, justement, comme disait Julie, la technologie en soi elle est intéressante, mais enfin, ça reste assez impressionnant de savoir que c'est une seule et même boîte qui récolte la plupart de nos données. On en parlait encore tout à l'heure avec Nas. Ne serait-ce que, le fait que Google, ils aient changé de structure et qu'ils soient passés avec une maison mère, Alphabet, pour avoir Google Nest et tout le reste, c'est notamment pour essayer de contrer l'espèce de peur, parce qu'au bout d'un moment, tout s'appelait Google. Et maintenant, ça s'appelle différemment, mais ça reste la même boîte. Moi, c'est le fait que ce soit une seule boîte qui gère tout ça qui est flippant, parce qu'après, pour l'instant, comme tu disais, ils ont leurs intentions, elles sont juste commerciales, mais si à un moment il y a une politique qui change ou il y a...
Oui, c'est ça qui fait peur les gens, je pense.
Moi, ça me fait
penser... Effectivement, ça devient l'empire du mal, comme tu le dis.
Moi, ça me fait penser à Terminator, tu vois, avec Skynet qui prend le monopole, ils ont des robots, ils renversent tout, ils partent en vrille. Mais... Alors juste pour préciser un truc, je vous ai pas précisé quelque chose sur ce haut-parleur. En fait, à la base, c'est Amazon qui avait lancé son haut-parleur, mais il était un peu moins poussé parce que Google a beaucoup plus travaillé sur cette reconnaissance vocale et notamment sur ce travail au niveau des données. Mais Amazon s'y met aussi. Donc vous aurez la possibilité d'avoir cette enceinte aussi qui pilotera un peu tout. Et le petit plus Amazon, c'est que vous pourrez commander directement des choses depuis votre fauteuil. Donc vous êtes dans votre fauteuil, vous dites par exemple, oh j'adore cette télé et tout, clac, Amazon pourra limite commander une télé, vous avez une télé qui arrive, livrée peut-être avec des drones et tout.
C'est un truc de confirmation quand même, parce que on peut vite s'en trouver à court de budget comme ça.
C'est dangereux pour le compte.
Ah, je pense qu'à mon avis, il y aura peut-être un petit robot qui te dira oui, est-ce que vous voulez confirmer votre achat? Tu dis oui, hop, débité directement. T'imagines de la blague de ton pote,
c'est ça, ou alors tu regardes la télé, t'as le son un peu fort, tu vois, t'as les pubs qui passent les unes après les autres et ça achète tout ce qui se passe sur les pubs.
Mais n'empêche que tu vois, tu parles de ça, mais on peut imaginer que genre le haut-parleur il enregistre les émissions de télé que t'écoutes.
Oui, c'est ça.
Genre, quelle chaîne
ça,
tu regardes le plus?
C'est ça qui fait le plus peur, hein, sur ce haut-parleur. Donc, c'est un haut-parleur, bien sûr, il y a un micro, donc, qui entend tout ce qui se passe dans la pièce, et il y a une véritable question au niveau de la confidentialité.
Ouais, en
comme
gros,
toujours.
T'es sur écoute, quoi.
Et qu'est-ce que, Google n'a pas encore dit ce qu'il allait faire de ces données qu'il allait récolter.
En fait, ce qui fait peur, pour moi, ce qui me fait peur encore avec la domotique, c'est effectivement quand il y a des haut-parleurs, et puis les caméras aussi, de sécurité qu'on peut avoir chez soi.
Ouais.
Ça me fait un peu flipper, quoi.
D'ailleurs, il faut imaginer qu'on a le haut-parleur. Bientôt, on aura peut-être des voitures aussi qui sont autonomes. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, donc, il y a eu des tests quand même qui ont été faits. Et des gens ont réussi à hacker les voitures autonomes. Donc, c'était quelqu'un qui était en train de tester sa voiture tranquille. Et puis, bon, il était au courant que ça allait être hacké. Mais il y a des gens quand même qui ont réussi à hacker la voiture et à la détourner de son itinéraire. Donc, c'est vrai que c'est peut-être aussi un des problèmes du tout connecté.
Après, les voitures autonomes, il y a quand même un volant, non, pour reprendre le contrôle.
Oui, il y a un volant, mais en fait, comme je te dis, c'était un peu dans une phase de test. C'est-à-dire que le gars, il savait que ça allait être hacké. Ça devait être des équipes en interne, peut-être, qui avaient dit, bon, on va essayer de le craquer. Ils l'ont fait. Ils ont réussi. Ça s'est produit deux ou trois fois, je crois. Mais voilà, c'est pour dire aussi que ça reste de l'informatique. Mmh. Et ce qui est informatique peut être piratable.
Mais tout à fait.
Mais vous voyez, vous, dans quelques années, avec Google, donc vous avez votre agenda Google, donc vous rentrez tout ce que vous devez faire, le haut-parleur, il sait déjà ce que vous devez faire, il va vous le rappeler, oui, alors je vous rappelle que vous avez tel truc à faire dans telle minute, la voiture qui arrive comme ça, hop, qui se gare en bas de chez vous, vous montez dans votre voiture, elle vous amène directement à votre lieu, et puis vous avez votre agenda qui vous dit, oui, attention, dans 30 minutes, vous avez quelque chose à faire. Est-ce que ça vous plaît comme ça dans l'idée, ou ça vous fait plutôt flipper? J'en vois déjà qui ça a l'air de plaire.
Bah oui et non, en fait, parce que pour les voitures, j'ai du mal à me projeter encore, ayant moi-même pas de voiture déjà. Ah, mais j'ai le permis. D'ailleurs, je me demande à quoi il va servir du coup si les voitures se pilotent toutes seules. Mais bon,
il y aura une sorte de formation normalement pour pouvoir.
Mais
accéder à ça.
J'avoue que le fait de pouvoir se faire hacker une voiture, ça me fait un peu beaucoup plus flipper, parce que ça met plus en danger sa vie que se faire hacker des données finalement. Tu prends l'autoroute et tu vas aller à Paris, t'arrives à Marseille, t'es un petit peu déçu. Mais autrement, non, le reste, tout ce qu'il te dit, justement, qui programme bien ton agenda et qui te dit, je crois que c'est Google Now qui fait ça maintenant, qui te dit, en fonction, par exemple, du trafic qu'il va y avoir, qui te dit, il faut que tu partes maintenant pour arriver à telle heure. Ce sera pas mal pour l'ère du jeu, notamment. Pour moi.
pour moi aussi, oui.
Et du coup, non, c'est assez pratique là-dessus. Et voilà, je pense que ça peut aider dans la vie courante. Après, tout ce qui est voiture autonome, je ne sais pas encore.
Ouais,
je n'ai pas trop d'avis encore.
Vous, les filles, là-dessus, alors ?
Moi, je suis une grande, grande enthousiaste du futur, et je pense qu'il n'y aura pas que Google qui fera ça.
Ah, tu penses qu'il y a quelqu'un qui va détrôner Google ?
Ouais, je pense que les prochaines années, le but de tous les gens qui ne seront pas Google, ce sera de proposer des solutions alternatives. Et du coup, je me dis que peut-être il y aura un autre système pour les voitures autonomes. Peut-être qu'il y aura un autre système pour, l'agenda, pour je sais pas quoi. Et puis qu'on va pas non plus complètement se faire manipuler, parce que sinon ça fait un peu peur quand même. C'est un peu trop, dans le sens où. Du coup, je repense à cette histoire de conférence là. Les données que Google a aux États-Unis, ils sont obligés de les donner à la NSA. Il y a une loi, c'est comme ça.
D'accord.
Et donc, en fait, on le sait, tout le monde le sait. Donc, en fait, ces données qui sont récoltées par Google, elles sont peut-être pas publiques, donc elles sont pas open source, on va dire. C'est pas de l'open data, mais c'est quand même open pour des États. Qui ont le droit de les réclamer si besoin.
T'es en train de dire que c'est les Américains qui nous surveillent.
Mais de toute façon, les GAFAM, c'est tous États-Unis, c'est tout dans un rayon qui est très 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 petit. Donc c'est aussi une espèce de, on va dire, d'uniformisation des modes de vie. En gros, le mode de vie de tous les gens dans le monde, il est décidé par des gens qui sont tous au même endroit et qui vivent tous de la même manière.
Et selon leurs intérêts commerciaux.
Et pour dans un objectif commercial. Donc ce qui serait super chouette, ce serait que des gens qui ne sont pas forcément dans ces objectifs, qui peuvent avoir des objectifs commerciaux, mais qui peuvent venir d'ailleurs, d'Europe ou d'Afrique ou je ne sais pas, ou même d'Asie, pour en fait produire des choses qui vont être différentes, juste parce qu'ils n'ont pas la même culture, parce qu'ils n'ont pas forcément la même manière de fonctionner, le même quotidien. Et voilà, moi je crois en ça.
Mais c'est vrai que là, alors là, on a un peu peur, mais souvenez-vous de nos parents qui ont découvert les Walkman et qui étaient qui flippaient, qui disaient, mais la jeunesse est en train de partir en vrille, etc. Si ça se trouve, pareil aussi avec les ordinateurs, on avait vachement Microsoft qui prenait le monopole. Et puis après, on a eu Mac qui est arrivé, donc avec OSS. On a aussi Linux qui est apparu. Donc peut-être qu'il y aura peut-être aussi des alternatives pareilles dans le futur.
Ouais, mais de toute façon, ça va se réguler aussi. Il y en a déjà, je sais qu'il y a un organisme de surveillance de Google aux États-Unis. Et d'ailleurs, il y a eu un scandale récemment parce qu'ils se sont rendus compte que dans les financements de cet organisme, en fait, il y avait Oracle.
Qu'est-ce Oracle ?
C'est un éditeur de logiciels pour généralement des grosses boîtes, mais qui est aussi un gros acteur du marché de l'informatique. Donc, en gros, c'était un peu à vous les financer parce que vous êtes concurrents et nanana. Mais bon, il y a déjà. Enfin, les gens sont. Je pense que les consciences commencent un peu à s'éveiller sur le fait que, bon, on ne va peut-être pas tout laisser aux GAFAM. Après, je pense aussi que quelque part, il y a toujours cette espèce de mouvement de balancier, on va être hyper technologie, puis après on va être plus en mode c'était quand même bien la vie sans la technologie, donc on va retourner.
Retour aux valeurs.
Enfin voilà, c'est un peu ça. Moi, personnellement, j'adore tout ce qui est technologique, mais il y a des trucs où je sais que j'aime bien les faire moi-même, genre le café. Moi, je pourrais pas imaginer
Tu te lèves qu'à 7h, ta machine elle se lance directement. Ouais, dès que ton réveil a sonné, clac, ta machine à café se lance.
Ouais, parce que tu vois, c'est un processus. Tu te lèves, moi, c'est du thé, mais j'aime bien faire mon petit thé, ça me permet de me réveiller et tout, tu vois. Mais je pense que, comme dit Julie, l'idée c'est que aussi il y a des organismes d'ailleurs dans le monde, et il y en a déjà, je pense que après nous on est en Occident, donc on voit les boîtes occidentales, mais ne serait-ce qu'en Chine, Google,
il y a moyen en Chine, il y a moyen. Toi, t'en penses quoi, Seb? Un dernier petit mot, tout ça?
J'ai un petit peu un mix entre tout, en fait. C'est que c'est hyper enthousiasmant, mais en même temps, effectivement, le fait que les États-Unis aient un petit peu le contrôle sur tout, au final, ça peut poser des soucis d'éthique et de. Tu vois, si jamais, par exemple, il y a des gros problèmes dans le monde et tout ça, et qu'on veut les changer, tu vois. Oui, bien sûr.
Il y a des exemples, genre si tu prends la révolution, c'est quoi, tunisienne? Je veux pas dire des bêtises, je sais pas exactement.
Le printemps arabe.
Je suis pas une super géopolitique, ouais. Mais en fait, où Google a décidé d'agir pour que les gens puissent communiquer, pour que les gens puissent se rassembler, tout ça. En fait, à ce moment-là, Facebook choisit de se positionner en faveur de, tu vois. Et du coup, ils tranchent parce qu'ils supportent plus les gens qui vont faire la révolution que le gouvernement à ce moment-là. Et en fait, ce qui a été prouvé, c'est qu'ils ont investi pour mettre en place des serveurs. Ils ont mis à disposition des compétences, en fait. Et du coup, ils ont eu énormément de poids dans quelque chose qui s'est passé politiquement ailleurs, dans un autre État.
Je suis d'accord, mais
qui ne les concerne pas, en fait, à la base.
Je suis d'accord, c'est très bien, mais le problème, c'est surtout les États-Unis au final, tu vois. Enfin, c'est très bien, ça se discute, tu vois, mais c'est surtout les États-Unis au final, parce que eux ont le contrôle de tout, donc ça veut dire que, ils peuvent en servir justement à l'inverse, entre guillemets, à peut-être faire du renseignement politique ou ce genre de choses.
Oui, il y a ça aussi. Ouais.
Montrer éventuellement des révolutions, le genre de choses. Je prends des cas extrêmes, mais ça peut être une défense.
C'est vrai qu'ils peuvent sélectionner les images qui seront diffusées ou les choses comme ça, effectivement.
On doit tellement faire complotiste, là.
Non. On est à Radio Canu, vous inquiétez pas, c'est normal.
On a le droit de...
Non, mais c'est bien, c'est aussi risque, d'éveiller les consciences. Non, mais c'est clair.
C'est un risque parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Surtout, on voit un peu les clivages en ce moment en Amérique. Ça peut faire un peu peur, donc...
C'est Mark Zuckerberg, je crois, Facebook qui a été accusé de favoritisme parce que, en fait, apparemment, il donnait moins de visibilité au compte de Trump que au compte de Clinton sur Facebook.
Tout le monde s'est ligué contre lui.
Lui, il a répondu que c'était une plateforme privée, qu'il avait aucune obligation, donc que Facebook faisait ce qu'il voulait.
Mais c'est vrai, mais d'un côté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont un pouvoir décisionnaire.
Qu'ils sont pas un État, ils sont pas un parti, ils ont pas été élus, et du coup, il y a pas de raison, si tu veux, que, tu vois, c'est pas parce qu'ils sont riches qu'ils ont le droit d'avoir un avis, quoi. C'est ça le problème, parce que, en plus, aujourd'hui, c'est Zuckerberg. Bon, admettons que Zuckerberg, à la limite, il est super, et puis il a plein de bonnes intentions, il a envie de faire changer le monde dans le bon sens.
Et si demain c'est
Zuckerberg, à un moment donné, il va avoir plus d'enfants, il va être fatigué, il va avoir envie de faire autre chose de sa vie, il va nommer quelqu'un d'autre, et puis voilà, et puis ce sera peut-être quelqu'un de bien, mais après ce sera peut-être quelqu'un de moins bien, et plus ça va. Enfin, voilà, c'est comme l'histoire de la MakerBot, je sais pas si tu connais, c'est une espèce d'imprimante 3D, là, qu'il y a des gens qui ont fabriqué dans leur garage, c'était la toute première imprimante 3D, et donc les gars qui font cette imprimante, ils sont dans leur garage. Ils ont des super objectifs pour le monde, en fait. Ils veulent que tout le monde puisse fabriquer leurs objets en 3D. Et puis, ça grossit. Ils se font racheter une fois, ils se font racheter deux fois. Ça devient une entreprise où, en fait, ils sont, je sais plus, 100, tu vois. Et puis, ils finissent par embaucher des gens qui ont des compétences. Donc, quelqu'un qui va être chargé de faire grossir la boîte, quelqu'un qui va être... Voilà. Et au final, ces gens-là, ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs parce que eux, ils ont été embauchés pour faire grossir la boîte.
Exactement.
Pour vendre plus, pour ouais. machin. Et du coup, l'esprit de MakerBot de base, il se perd complètement. Ça devient un truc qui est payant, qui est cher, avec des petites pièces qu'en fait, tu ne peux pas fabriquer toi-même. Parce que l'idée, c'était aussi que les gens puissent faire leur imprimante 3D eux-mêmes. Enfin, voilà. Mais du coup, c'est le même. Enfin, ce schéma, tu peux le reprendre pour.
C'est ça.
Pour tout, quoi.
Pour tout. Mmh.
Et pour Facebook, ça marche. Et pour Google, ça marche. Et du coup, voilà.
Je sens que c'est un débat qui. On en reparlera. On s'en refera une. Dessus, là, on va se faire une coupure musicale. Et après, c'est vous qui revenez, l'équipe de l'art et la bidouille, pour nous parler de vidéos.
Ouais,
c'est bien ça.
Des trucs gentils. Ouais.
Sachez que vous pouvez réagir en direct sur le hashtag R du jeu sur Twitter, voilà, ou sur Facebook, puisqu'on en parle. Vous pouvez aller sur la page de Game Age pour réagir, ou sur les pages aussi de l'art et la bidouille, bien entendu. Allez, on va se passer un morceau de musique. Ça, c'est une musique tirée du jeu Guilt Gear X2. Ça s'appelle The Hour of She, et on revient dans un instant. À tout de suite. Rendez-vous qui part de jeux, de high-tech, de jeux vidéo, d'art, de bidouille. Et puisque je le dis, dans un instant, c'est l'art et la bidouille, donc ils vont nous parler de vidéos. Juste temps pour moi, avant de vous rappeler que l'air du jeu, c'est tous les samedis de 12h à 13h sur Radio Canu. Vous pouvez retrouver les podcasts sur la page Game Age, peut-être aussi sur votre page, l'art et la bidouille. Je ne sais pas si vous les avez mis, non?
Non, pas encore, mais on va les mettre.
Si, on a publié le podcast.
On a publié le podcast, voilà.
Vous pouvez aussi retrouver les podcasts sur la page de Radio Canu aussi, bien entendu, et vous pouvez laisser des commentaires donc aux différentes associations. Ça nous fait plaisir. N'hésitez surtout pas à communiquer avec nous. Et là, bah, tout de suite, je fais place donc à Lara et la Bidouille qui vont nous parler donc de vidéo.
Tout à fait. Alors, on a choisi un thème pour aujourd'hui. Ce sera plutôt la vidéo et le vidéo mapping, le VJing. Donc, on vous expliquera ce que c'est.
Ouais.
Juste pour dire que c'est une semaine de ouf pour les arts numériques. Il se passe plein de trucs. Tout le monde est de sortie.
Sur Lyon ou dans toute la France?
Alors, du coup, je vous ferai l'agenda à la fin. Mais il y a plusieurs festivals. Il y en a un à Grenoble, il y en a un à Rennes. Mmh. Et pour te dire, tous les gens que je connais à Lyon qui font de l'art numérique ne sont pas à Lyon cette semaine.
Yes,
voilà.
Cool.
Donc il y a pas mal de choses à raconter. Mais on va commencer avec des petites explications sur ce que c'est que ces techniques, parce que sinon ça risque d'être un peu hardcore.
Oui, ouais. Tout à fait. Donc on va faire appel au dictionnaire.
Yeah, yes.
Donc on va commencer par le VJing. Donc est-ce que, par exemple, vous savez à peu près ce que c'est que le VJing ?
Le quoi ?
À toi l'honneur.
Je pense que j'ai une idée, mais je sais pas si c'est ça. C'est mixer de la vidéo en live.
Ouais.
Sur du son.
Ouais, voilà, j'aurais pas dit ça. Okay. Ouais. Non, j'en savais rien.
C'est exactement ça en fait. Vous avez tout à fait raison.
Ah, aujourd'hui, je suis en forme.
C'est tout à fait ça. Donc il y a les DJ et puis il y a les gens qui font du VJing, des VJ quoi.
Ça, donc c'est impressionnant, ouais, comme ouais. J'ai déjà vu faire.
Ouais, non, ouais,
ça doit être super chaud à mettre en place.
C'est très technique, mais après c'est comme tout, c'est une question de maîtrise et de logiciel et d'entraînement et
faut bien connaître ses outils.
Ouais, tu dois avoir 15 000 écrans et le gars il doit mixer dans...
Pas forcément, je pense que ça peut se faire avec des sortes de samplers en quelque sorte,
oui,
comme
voilà.
Des launchpads ou des choses comme ça.
D'accord.
Pour ceux qui savent pas, les launchpads c'est une sorte de petits tableaux avec plein de petits boutons.
Oui, voilà, et en gros tu mets des enfin chaque il y a bouton représente une séquence vidéo par
D'accord.
exemple, et si tu t'appuies sur tel bouton, ça va lancer cette séquence et tu peux les programmer pour être joués ensemble ou pas, enfin voilà.
Mais ça c'est vraiment une démarche artistique.
Oui. C'est d'où l'art et la bidouille. Alors,
oui.
En fait,
et oui.
Pour revenir un petit peu en arrière, le terme VJing, il est apparu dans les années 1970. Et en fait, au tout début, on a parlé de VJing pour en fait parler de l'animateur qui présentait les clips vidéo sur MTV.
D'accord.
Donc, en gros, c'est comme c'était lui qui présentait les clips vidéo, ben c'était un peu le VJ, quoi,
le la VJ, vidéo. Yeah.
Donc ça fait quand même un petit moment qu'on en parle, mais c'est vrai que ces dernières années, avec toutes les nouvelles technologies, les nouveaux logiciels, ça a amené des pratiques plus courantes, et donc ça a fait un peu son explosion. Donc qu'est-ce que le VJing, on a dit, donc c'est quelques, en fait c'est de la diffusion en live de vidéos et c'est de la création en live. Donc ça peut être sous la forme d'une performance, donc souvent quand on va dans des festivals d'art numérique, on peut avoir des performances de VJing. Donc ça peut être avec de la vidéo, mais il peut aussi y avoir l'intervention de danseurs,
qui
crachent du feu.
Des fois c'est pendant des concerts.
Voilà, c'est ça, c'est une performance artistique, donc après l'artiste il en fait ce qu'il veut. Et après, et comme disait Julie, on en a beaucoup aussi pendant les concerts, de plus en plus. On a en fait, je pense que ça arrive à beaucoup de gens d'aller à un concert et de voir des grands écrans où il y a de la vidéo. Et là, il y a deux cas. Soit c'est de la vidéo qui a été préenregistrée, donc en fait, elle passe au fur et à mesure du live. Soit s'il y a quelqu'un en fait en direct qui est en train de diffuser la vidéo pendant que l'artiste il mixe ou il fait son concert. Donc il faut vous dire que des fois, que si vous voyez le musicien, peut-être que derrière il y a quelqu'un qui est avec son ordinateur, sa machine en train de faire tous les écrans.
Est-ce que le musicien peut faire les deux en même temps ?
Oui, c'est possible. C'est compliqué, mais c'est possible.
J'ai un doute parce que j'ai un concert en tête et je ne sais pas si. C'est Mike Topkins. Je ne sais pas si
vous connaissez.
Je ne connais pas. Il y a plusieurs millions d'abonnés, donc qui marche bien. Un artiste qui a émergé via YouTube. Et je l'avais vu en concert. Et justement, il faisait ça en fait. Il faisait avec sa voix, il faisait des mix en direct avec sa voix. Du beatbox et plus du chant. Et en plus de ça, il y avait l'écran géant derrière justement, où il y avait plein de vidéos qui passaient en rythme et tout ça. Donc, il y avait pas mal il y avait pas mal d'outils justement sur sa table, parce qu'on pouvait les voir, il y avait une webcam au-dessus de lui. Et on voyait pas mal de choses. Et je me suis dit, pour avoir après étudié un petit peu ce qu'il faisait au niveau du son, je comprenais pas pourquoi il y en avait autant et pourquoi il avait besoin d'autant. Donc, à mon avis, peut-être
Après, ce qui est possible aussi sur la musique, c'est qu'il y a des choses qui soient programmées à l'avance, dans le sens où tu vas faire un petit bout de code qui va réagir au beat ou alors qui va réagir, je sais pas, quand tu chantes ou je sais pas quoi. Et du coup, tu vas avoir une illustration, on va dire, du son que tu peux avoir dans le micro. Donc, tu génères quelque chose en temps réel, mais t'es pas forcé de faire vraiment du VJ dans le sens où tu vas tourner tous les boutons pour la vidéo alors que t'es déjà en train de le faire pour la musique.
D'accord.
Mais il y a plein, enfin, en fait, il y a plein de choses différentes.
Plein de manières de le faire. Et puis oui, donc en fait, pour résumer, le beading, c'est une discipline artistique qui regroupe plein de techniques différentes, mais qui se base sur la diffusion en direct d'une vidéo.
D'accord.
En gros, je ne sais pas si c'est clair.
C'est clair.
Et puis, du coup, dans le beading, on voulait vous parler de mapping vidéo.
Ouais, voilà.
Parce que c'est une des techniques qui est utilisée dans le beading et c'est super intéressant. Donc on va en parler.
Oui, on est toutes oui, on est toutes oui.
Donc qu'est-ce que le mapping ?
Ça, Sabi doit savoir.
Alors il me semble que c'est, alors je n'ai pas la définition exacte, mais il me semble que quand on, par exemple, des gens diffusaient des vidéos sur des bâtiments, c'est ça en quelque sorte.
Ouais.
Du coup, je ne sais pas la définition exacte.
Ah, c'est juste c'est ça aussi. Une sorte d'animation qui diffusait donc sur un support autre qu'un écran classique, non ça ?
En gros, en fait, ta projection, elle va être définie par l'environnement sur lequel c'est projeté. Donc souvent, par exemple, pendant la fête des Lumières, c'est l'un des meilleurs exemples qu'on a. Et ici à Lyon, on aime la fête des Lumières.
Ouais.
D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, elle est maintenue cette année. C'est du jeudi 8 décembre au dimanche 11 décembre. On n'a pas encore le programme, mais il y aura la fête des Lumières cette année. Normalement, ça sera juste dans la presqu'île. On n'a pas encore trop d'infos, mais voilà.
C'est consigne de sécurité.
Et du coup, en fait, pendant la fête des Lumières, il y a énormément de mapping.
Ouais.
Et donc, le mapping, c'est le fait de prendre compte de l'environnement. Donc souvent, quand vous voyez des bâtiments et que les fenêtres, elles sont mises en relief, elles sont éclairées ou quoi, et ben, en fait, c'est du mapping. Ça permet de recréer un peu des environnements et des éléments, mais ça peut, enfin, c'est pas forcément que sur des bâtiments, ça peut aussi être fait sur un corps, ça peut être fait sur un mur, non pas trop un mur blanc, sauf si le mur blanc fait complètement partie
Sauf si
il y a du relief.
Voilà, s'il y a du relief ou quoi. Et il y a aussi sur les visages. Mais...
Et si ouais, c'est une sorte de jeu, c'est aussi considéré comme du mapping. Je crois qu'ils avaient fait une sorte de baby-foot. Je dis une connerie, non, je sais plus. Enfin, il y avait eu un jeu comme ça qui avait été diffusé sur le mur des Célestins.
Ouais,
il y a quelques années.
Flipper.
Un flipper, voilà, pardon. Et ça aussi, c'est considéré comme du mapping.
Je pense, en fait,
la colle.
Pour très concrètement, quand tu fais du vidéo mapping, c'est comme si d'abord tu mets ton vidéoprojecteur en route.
Ouais.
Donc, t'as ton image qui va s'afficher sur le bâtiment. Et après, t'ouvres un petit logiciel. Et dans ton petit logiciel, tu mets tous les points du bâtiment. Donc, en fait, tu dessines le contour des fenêtres. Tu dessines le contour de ton bâtiment, tout ça. Et pour que ta vidéo, elle tienne compte de tous ces détails. Et donc, ça se recalibre avec le logiciel. Ça se recale pile au bon endroit, etc. Et du coup, si t'avais... le mur qui est bleu et la fenêtre qui est rouge, et ben tu vas caler exactement ça au bon endroit. Et du coup, pour les jeux vidéo, donc ben ça peut être du mapping. Je sais qu'il y a des jeux vidéo où en fait ça réagit avec les éléments du bâtiment. Enfin, il y a We Come in Peace qui est donc des gens qui étaient à la base de Grenoble et maintenant qui sont à Lyon, qui a un studio d'art numérique. Ils avaient fait un brise-bloc, non, comment ça s'appelle, un casse-brique, sur un bâtiment.
Oui, un peu la Tetris.
Et donc en fait, tu faisais bouger la, enfin il y avait une espèce de caméra qui te filmait, tu faisais bouger la barre qui est en bas de gauche à droite, et après la boule elle rebondissait sur les fenêtres, sur les côtés du bâtiment et sur les choses comme ça. Faut te dire que s'il y a interaction avec le bâtiment en tant que tel, tu peux considérer ça comme du mapping en gros.
Yes, ok.
Sinon, c'est juste une projection comme ça aurait été sur un grand mur. Tu vois, c'est ça la différence entre juste une projection comme t'as, en fait, imagine un cinéma en plein air, bah t'as un immense vidéoprojecteur et puis c'est, voilà, c'est juste, y a rien de plus. Ou alors, il y a des petits détails sur le bâtiment, des petites interactions. Et là, c'est du vidéo mapping.
Et c'est de plus en plus courant, cette pratique, non? Enfin, je dis ça parce qu'on est à Lyon, donc on en voit beaucoup, mais dans le monde en général.
Oui, ça s'exporte très bien. Je sais pas si, s'il y a des Lyonnais qui nous écoutent, vous connaissez probablement les Anouki, qui sont les petits Esquimaux, qui avaient été en la première année, je crois que c'était 2013 ou 2014, pour la fête des Lumières sur la gare de Saint-Paul. Puis après, ils ont été à l'opéra.
Ouais.
Et en fait, ils sont exportés, je crois, jusqu'à en Corée, aux États-Unis. Ils sont allés vraiment.
Et puis il y a un jeu, il y a une appli mobile aussi.
Ils font plein de petits trucs.
T'as vu sur les Anoukis?
Ouais. Hein?
Ouais. Génial.
Ils ont même des petites vidéos, des petits. En fait, c'est une agence carrément. Ils ont commercialisé le concept aussi.
Oui, ils ont pas tort. Hein. C'est un truc qui était tout mignon, ça fonctionnait bien. Hein.
Et en fait, le vidéo mapping, ça se vend beaucoup. Et c'est presque un outil commercial maintenant. En fait, faut vraiment voir ça comme une technique. C'est une technique qui est utilisée dans les arts numériques, mais ça reste un outil technique comme un logiciel pour faire du dessin en 3D, tu vois. Et c'est utilisé. J'ai regardé hier des vidéos, en fait, mais pour tout et n'importe quoi, pour des salons, pour des voitures, où il y a une projection sur la voiture, où il se passe plein de choses, genre le capot s'ouvre, tu vois l'intérieur.
Oui, c'est cool, ça.
En fait, avec la vidéo, tu peux faire tout ce que tu veux. Et c'est très, des fois, ça peut être très futuriste, ces vidéos qui sont projetées sur une surface, tu vois. Mmh. Parce qu'il y en a, on a vu, on partagera sur notre page Facebook un mapping sur un visage. Donc c'est un visage en plus d'asiatique, donc ça appuie un peu le côté futuriste, etc. Bon. Mmh. Et en fait, son visage s'ouvre complètement. On voit la technologie qui est à l'intérieur de son visage. Enfin, c'est juste hallucinant.
Ah ouais.
C'est super.
On dirait vraiment, je sais pas, on dirait un robot.
Ouais, c'est hyper réaliste, quoi. Et c'est tout en direct. Donc, parce que le mapping, ça peut être en direct et ça peut ne pas être en direct. Ça peut être juste, par exemple, la fête des Lumières, c'est pas du direct. C'est-à-dire que, en fait, c'est programmé et que. Enfin, c'est programmé sur le bâtiment et en fait, ça va se répéter de plusieurs fois.
Oui, c'est une séquence qui se relance,
Il n'y a pas quelqu'un qui est en train de faire en direct derrière la séquence qu'on voit sur les bâtiments. Alors que le mapping en direct, ça utilise le tracking. Donc en fait, là, le visage de la femme, c'était en direct. Donc en fait, il y a des points qui sont dessinés sur son visage à des endroits très précis. Et le logiciel, il va se focaliser sur ces points-là, qui sont faits d'une couleur ou d'une matière particulière pour que le logiciel puisse les détecter. Et en fait, si elle bouge le visage, le mapping, il va suivre son visage quand elle ferme les yeux. Enfin, ça va s'adapter. Et enfin, c'est pour ça qu'on dit que c'est en direct. C'est parce que ça réagit.
Ça réagit à l'environnement en direct.
Mais vous utilisez Snapchat, non?
Oui.
Vous connaissez ce truc où on vous met des oreilles et des nez d'animaux?
Oui, génial.
Et ben ça, typiquement, voilà, c'est ça. Ça regarde où est votre visage, où est votre nez, où sont vos yeux.
Quand on active les fils, justement, on a une espèce de petite bulle
où tu mets ton visage dedans.
Voilà.
Ça
modélise un peu le visage. Ouais.
Mais juste avant de lancer les effets, on a une espèce de bulle où on voit ces différents points justement qui s'affichent.
Ah, ça, c'est du mapping alors ?
Ça, c'est du tracking, c'est-à-dire qu'on va traquer certaines choses. Donc, en fait, on va essayer de repérer les mouvements et de suivre et de se dire, ok, les yeux, ils sont à tel endroit, le nez, il est à tel endroit, nanana. Et si tu fais une utilisation en direct de ça, et ben du coup, tu peux repérer où sont les yeux et projeter sur les yeux telle chose. Et donc, tu les suis et tu vois.
C'est puissant, ouais.
C'est ce qu'on appelle du temps réel, en fait, dans les... C'est un mot qui est vachement utilisé en programmation aussi. Ça veut dire que tu utilises des données que tu acquiers tout de suite en temps réel. Et c'est un programme qui processe et puis tu rebalances quelque chose dessus directement, quoi. C'est du temps réel.
C'est
beaucoup utilisé dans les séries, les films... tout ça là pour tous les éléments, on va dire les effets spéciaux. C'est quelque chose qui
est en vidéaste, oui, ça.
Ouais, moi je suis plus dans la, on va dire, les vidéos pour film, on va dire en quelque sorte, plutôt que dans les choses, ça c'est plus, on va dire, je considère plus ça comme de l'animation au final. Je pense que c'est tu serais d'accord avec moi là-dessus.
Oui.
Ouais. Et voilà, non, messieurs, je trouve ça effectivement très chouette et très complexe aussi. Moi personnellement, je serais incapable de faire ça. Mais...
oui, c'est vrai, c'est vraiment complexe. C'est aussi complexe que ça en a l'air, puisque là, maintenant, ça devient de plus en plus accessible.
Le temps réel, c'est quelque chose qui reste complexe malgré tout, parce qu'en fait, le temps que tu prends à collecter tes données, trier pour en fait en extraire juste l'information que tu veux, puis avoir un programme qui va calculer des choses dessus, puis transformer ça en son ou en image ou voilà, c'est quelque chose qui voilà, le temps réel, c'est toujours un peu c'est pas très accessible pour des débutants, on va dire.
Voilà, il faut avoir un peu d'expérience.
Ouais, il faut un peu d'expérience parce qu'il faut être capable de... Alors là, on va rentrer dans les trucs super techniques. En gros, il faut être capable de faire plusieurs choses en même temps à ton ordinateur. Ouais. Il va falloir faire ce qu'on appelle du multi-queue ou un truc comme ça. Mmh. Et l'idée, c'est de dire, si je lui fais faire ça, je vais pouvoir lui faire faire ça en même temps, puis ça en même temps, puis ça en même temps. Et donc, il va pouvoir être assez rapide pour gérer
sous
temps réel qui n'a pas de lag. Parce que la plupart des choses que tu fais, même si tu vas tester un jeu vidéo qui est en prototype, en fait, qui n'est pas un jeu... peut-être un jeu vidéo plutôt, je pense, interactif avec un mapping. Bah, en fait, il y a du retard, tu vois. Genre, t'appuies sur un bouton et puis le truc, il saute une seconde après.
T'as un petit temps de latence, ouais.
Ouais. Et ça, c'est la caractéristique de l'amateurisme en temps réel, on va dire.
D'accord.
C'est à peu près normal que d'avoir du retard dans tes trucs de temps réel.
D'accord.
Voilà.
Ok. Vous vouliez dire autre chose encore, du coup, sur ce sujet?
Mis à part que rendez-vous sur Facebook pour des exemples.
Voilà. On mettra plein de vidéos sur Facebook.
Oui, et du coup, la page Facebook, c'est l'art et la bidouille. Et puis il y a les liens sur.
On mettra les liens, bien entendu, pour que vous puissiez retrouver tout ça. Et puis même, je pense, sur notre page GameAge aussi, on redirigera vers vous pour que les gens puissent voir tout ça. On va se faire une coupure musicale. On va se passer une musique issue de Ridge Racer Type 4, donc c'est assez vieux. On revient dans un instant pour le sac de news. Donc, voilà, restez avec nous, on revient dans un instant, à tout de suite. Du jeu, votre rendez-vous qui part de jeux vidéo, d'art et de bidouille. J'espère que vous allez tous très très bien. Sachez que là, on a parlé de la vidéo dans l'art un peu, ou dans l'art et la bidouille. Ouais, je sais pas comment dire.
Oui.
Ouais, okay. Ça vous va?
Très bien.
Et en première partie, on a parlé donc de Google avec leur projet de haut-parleur que vous pouvez retrouver donc sur le podcast qui sera très prochainement en ligne. Là, on va se faire le sac de news et puis après on enchaînera donc sur l'agenda parce que comme tu l'as dit Julie, il se passe beaucoup de choses dans le monde de l'art et de la bidouille.
Exactement.
Donc tu nous expliqueras tout ça. Allez. Donc pour le sac de news, Je voulais vous parler d'une vidéo qui est apparue sur YouTube depuis un petit moment. C'est une nouvelle manière d'apprendre l'escalade, puisque ils utilisent donc un système de projection, voilà, sur le mur d'escalade.
Un vidéo mapping,
exactement. C'est ça. Et donc, on peut voir sur cette vidéo, donc, des gens, alors, soit qui jouent à une sorte de jeu musical, mais sur le mur d'escalade. Donc, ils doivent essayer d'atteindre certaines prises, voilà, en suivant la lumière. Ou, il y avait aussi une vidéo qui ressemble plus au jeu des années 60, à savoir le jeu Pong. Donc, on a deux escaladeurs qui sont face à face l'un à l'autre. Et il y a une balle qui rebondit, donc, sur le mur et qui doit interagir avec le corps des escaladeurs pour rebondir, et du coup ça fait une sorte de tennis. Voilà, donc la vidéo vous pouvez la retrouver donc sur notre Facebook. Vous, est-ce que vous trouvez ça plutôt cool quand même comme concept, une nouvelle manière d'escalader?
Mais c'est trop cool.
Et du coup c'est vrai qu'ils sont en train de développer, donc c'est une équipe qui est en train de développer énormément de jeux et de programmes pour pouvoir escalader, donc peut-être une nouvelle façon d'escalader. Pour l'instant, à Lyon, je crois pas que ça soit disponible, mais j'espère qu'on pourra voir ça très très bientôt. Vous essayerez, vous, un truc comme ça ou pas trop? Toi, Seb?
Alors, bah, pas du tout, parce que j'arrive même pas à monter à, je sais pas, à 2 mètres de hauteur, même pas. Donc, ça va être compliqué.
Bon, peut-être que, voilà, ça te motivera, tu sais.
Non, je ne pense pas, non.
non, jamais.
Ouais, ça peut être une bonne manière d'apprendre, genre, par soi-même. À faire, genre, à monter dans ton premier mur, savoir quelles sont les bonnes prises et que ça s'adapte en fonction de ton. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est cool.
Ouais, vous tenteriez, vous, alors, le coup, si ça arrive sur Lyon?
Ouais, après, le pong, ça a l'air vachement physique quand même. Ouais, s'il faut monter et descendre.
J'avoue que ceux qui l'ont fait, ils ont l'air de gérer. Mais ça va quand même doucement, hein, mais c'est vrai que ça demande quand même une certaine agilité. Je pense que c'est ton premier mur, tu vas galérer, quoi. Sinon, autre news, donc, allez, là, on va parler un peu cinéma, vu qu'on a aussi l'association Ciné BD Goodies qui nous a rejoint, hein, qui nous aide. On va vous parler d'une sortie, bientôt. Assez inattendu, c'est celle de Pirates des Caraïbes 5. Voilà, vous pouvez trouver le trailer donc sur notre page Facebook, un peu près maintenant d'ailleurs, elle doit juste d'être publiée. Donc ça s'appelle Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar. Je sais pas si vous aviez vu les autres Pirates des Caraïbes.
Mais si,
crossover avec
oui,
Serpentin, enfin avec dans Harry Potter.
Je sais pas du tout. Ouais, non, je pense pas. Ça m'étonnerait quand même.
Et moi, je me souviens plus de. On l'a déjà vu dans les autres Pirates des Caraïbes.
Salazar? Alors non, moi j'ai regardé le teaser. C'est la première fois que je voyais ce mec-là.
Ouais, c'est ce qui moi aussi.
Il faut savoir quand même que c'est le retour de Orlando Bloom, je crois. C'est ça,
oui,
comme ça qu'il se dit. Voilà. Et oui, il est là. Il est présent dans ce film avec bien entendu Johnny Depp. Donc le retour de la Dream Team, et il est prévu pour 2017. Alors ça, c'est moi, ça m'avait surpris parce que j'en avais plus entendu parler.
Oui, c'est vrai que...
Hop, sorti cette année, voilà.
Surprise.
Ils ont fait ça en cachette.
Voilà, c'est un truc qui vous tente. Vous, les Pirates des Caraïbes, vous avez bien aimé ou vous avez trouvé que c'était un peu trop long, peut-être? Trop long?
Trop, ouais. Enfin, moi, j'avais bien aimé les deux premiers, puis après, je les ai regardés.
Le quatrième, il était moyen. Bah, c'est pour ça, d'ailleurs, ils ont mis beaucoup de temps.
J'ai décroché aussi un peu. C'est une série que... Enfin, c'est sympa, mais le 1 et 2 sont sympas. Enfin, le 1, j'ai beaucoup aimé. Le 2, un peu moins. Et puis... Pour tout dire, ça ne m'a pas resté dans la tête. Je me rappelle à peine l'histoire.
Ouais,
donc, à part du 1. Mais c'est,
ouais. Ah ouais, le 1, il avait cartonné. Mais après...
Moi, je sais que j'avais été un grand fan. Je les ai tous vus. C'est vrai que le 4, il avait pris une claque. Hein. C'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'ils ont pris beaucoup de temps pour pouvoir sortir le 5 et avoir une expérience plus correcte. Bon, pour le sac de news, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je te laisse la place.
Allez, c'est parti.
Pour nous parler de l'agenda.
Alors, agenda art numérique, on va dire. Donc... Il y a quelque chose qui est presque fini, mais on voulait en parler quand même. Ça s'appelle Experimenta et c'est à Grenoble. Donc, c'est un festival qui a duré 3 jours, 6, 7 et 8. Donc, c'était jeudi, vendredi et aujourd'hui. Et en fait, le principe d'Experimenta, c'est d'ouvrir au public les projets de recherche, on va dire, qui se passent entre les scientifiques et les artistes. Donc, c'est un festival, mais c'est une ouverture au public pour faire un peu de médiation sur ces sujets. Donc, comme ils le disent eux-mêmes, il y a des artistes, des scientifiques et des technologues. Donc, alors, les technologues, ça se passe à Grenoble.
Ah.
Et c'est presque fini, mais il y avait beaucoup de projets qui sont pas forcément en fait de l'art numérique, parce que art et science, ça peut être voilà, ça peut être autre chose.
Ouais.
En art numérique, on avait deux choses qui ont l'air assez dingues. Il y avait une œuvre qui s'appelait Partition, qui est en fait marche sur le principe du tracking oculaire. Alors attends, le mot
tracking
exact.
Oculaire. Alors, ouais. Tracking, le vous l'avez vu tout
oculaire.
À l'heure.
Donc en fait, le suivi oculaire, c'est le suivi de ton regard. Où est-ce que tu regardes? Et en fonction de là où tu regardes, on te montre des choses ou d'autres. Donc imaginons que si tu regardes à gauche, on va te montrer des trucs à gauche, et que si tu regardes à droite, on va te montrer des choses à droite.
Mais c'est une sorte de casque, tu sais, ou quand
non,
c'est
non, non, c'est une caméra qui te filme,
ouais.
Qui regarde ton œil et qui regarde la position de ta pupille dans ton œil,
ouais.
Et qui en fonction de ça sait dans quelle direction tu regardes. Tu vois, c'est quelque chose comme ça. Enfin, c'est plus compliqué que ça au final. Les capteurs oculaires, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais
Ça doit être une expérience.
Et donc là, ils avaient fait un tableau. Et donc, t'es devant ce tableau. Et en fonction de où tu regardes dans le tableau, il y a des choses qui s'éclairent.
Ah, ça doit être très, très particulier voir.
C'est vraiment, on va dire, une technologie nouvelle dans les arts numériques, je pense. Et même de manière générale, le suivi oculaire, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment actuel. Donc ça s'appelait Partition. C'est un projet de Anthony Rousseau et Adrien Fontaine. Donc c'est un artiste et un informaticien, en fait, qui s'associent sur ce projet.
Yes.
Voilà. Ensuite, on a donc nos Lyonnais de Théoris Studio. C'est un studio d'art numérique qui fait plein de choses et qui est très 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 on va dire innovant à chaque fois.
Mmh.
Et là, ils ont fait une espèce de grande structure en origami,
ouais.
Qui bouge. Donc c'est les structures qu'on appelle cinétiques, qui sont en fait pleines de moteurs qui,
ouais,
font bouger plein de choses différentes. Et donc, yes, là, il y avait une grande structure qui pendait en origami, qui respirait, qui bougeait. Voilà.
Ça doit être impressionnant, ouais.
Ouais, ça avait l'air très très beau en vidéo. Je regrette de pas avoir pu aller voir ça, mais ça avait l'air juste trop magnifique.
Tu nous mettras la vidéo YouTube.
On vous mettra des vidéos sur YouTube. Donc voilà. Donc ça, c'était expérimenta. C'était un peu les deux choses d'art numérique, on va dire, qui étaient expérimenta. Ça se passe toutes les années expérimenta, et il faut suivre ces projets qui sont juste hallucinants, en fait. On n'imagine pas qu'il y a des scientifiques qui travaillent avec des artistes
sur des projets. Cool, hein.
C'est vraiment intéressant. Voilà. Et d'autre part, il y a le festival Maintenant qui se déroule à Rennes. Donc ça, c'est du 7 au 16 octobre. Là, c'est art, musique et technologie au pluriel. Donc les arts, les musiques, les technologies.
Mmh.
Et il y a plein de choses différentes. Il y a beaucoup de choses autour de la musique. Donc, il y a des ateliers pour les enfants où tu construis des robots, où tu programmes des robots, tu construis des instruments. Il y a plein de choses. Il y a plein de concerts, en fait. C'est un peu la scène électronique très, très actuelle.
Mmh.
Donc, les choses qu'on connaît pas du tout. Il y a aucun nom qu'on connaît. Il y a tout ce qui est danse et technologie, parce qu'en art numérique, il y a aussi plein de choses sur, on capte les mouvements des danseurs et puis on projette une vidéo en fonction, un peu comme pour la musique.
D'accord, ça réagit en fait au mouvement des danseurs.
Exactement.
Mais on a prévu peut-être de faire une chronique.
On fera quelque chose juste sur la danse, parce qu'en danse, il y a plein de choses, c'est super.
Yes.
Et pour parler de Lyonnais, donc deux choses à maintenant, un peu par des Lyonnais. Il y a AADN, qui est un espèce de collectif qui fait plein de choses différentes, des résidences, qui produit des projets, qui est un laboratoire des usages numériques, etc.
Mmh.
Et donc eux, ils proposent des ateliers où les gens, ils vont... C'est quelque chose qui est entre le vidéomapping et le graffiti. C'est-à-dire que tu vas faire une petite création dans la rue,
mmh,
et c'est quelque chose que tu vas projeter, en fait. Et ils se sont basés sur, attention, gros mot, l'anamorphose.
D'accord.
Donc, l'anamorphose.
Alors qu'est-ce donc ?
Tu sais, c'est quand, par exemple, il y a des peintures sur le sol et que tu as l'impression qu'il y a vachement de relief au fond, ou que quand tu es à une position précise, tu vois la perspective,
la 3D.
Tu vois ce que tu vois ?
Oui, j'ai déjà vu des photos comme ça où il y avait des gars qui avaient dessiné des sortes de cascades ou des trucs comme ça.
Voilà, mais c'est exactement ça. Et en fait, donc ils proposent aux gens de faire ça avec du vidéomapping, et donc ils font plein d'ateliers, et après c'est en mode graffiti, donc c'est détournement de choses qui se passent dans la rue.
Ah, cool.
Voilà. Et sinon, il y a aussi donc Cross Labs, qui est aussi des Lyonnais. En fait, tous les Lyonnais ne sont pas à Lyon cette semaine. Enfin, c'est assez incroyable. Et qui, eux, ont coproduit une, quelque chose qui est du VJing. Donc, il y a un concert. Et en même temps que le concert, il y a quelqu'un qui fait le VJ. Et donc, il y a de la vidéo qui est mise à jour en temps réel. Et c'est très joli.
C'est voilà. Vous pouvez voir ça
Tout ça, c'est à Rennes. Donc, c'est un peu loin, mais c'est intéressant de regarder ce qui s'y passe en fait, ouais, parce qu'il y a plein de vidéos et puis c'est marrant de voir aussi des ateliers pour enfants qui peuvent proposer.
Et c'est de quand à quand des fois que.
C'est du 7 au 16 octobre.
Voilà, donc des fois qu'il y en a qui vont se balader par là-bas, ils pourront y aller.
Tout à fait.
Très bien, très bien.
Voilà.
Écoutez, je pense que. Alors, on va rappeler quand même rapidement où est-ce qu'on peut nous retrouver. Donc, sachez que vous pouvez retrouver, bien entendu, l'émission sur le Facebook de Gamage. Voilà, donc l'émission, enfin l'association qui chapeaute un peu le tout. Vous pouvez retrouver donc l'art et la bidouille sur Facebook, bien entendu. On mettra le lien, bien entendu, du podcast. Non, attendez, je la refais. On mettra donc le lien de l'art et la bidouille sur le podcast. Voilà, vous pourrez voir le tout. Toi, Seb, comment ça se passe pour toi en ce moment?
Oula, pas mal de choses. Bon, on a 5e carton qui a commencé, n'est-ce pas?
Oui, c'est vrai, 5e carton. Donc, notre émission basketistique, exactement, notre projet.
Excellent.
La Pro A.
Ouais.
Et puis, moi, vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur mon site dwave.fr, dwave.fr. Et sur Twitter, Griff, VOD, GRIF, VOD.
Bien ton Twitter d'ailleurs, hein, tu parles de plein de choses, de high-tech, des petites réflexions personnelles et tout, pas mal.
Des petites conneries aussi des fois.
Des petites conneries aussi, très bien, très bien.
S'il en faut.
Eh ben écoutez, merci à vous d'avoir été avec moi aujourd'hui.
Bien, merci.
Et on vous retrouve dans 2 semaines, c'est ça alors?
On chamboulera peut-être un peu le planning.
Ah d'accord, ok.
Ouais, je vais partir loin dans le nord.
Non, tu reviendras
c'est
quand même.
C'est pas du tout le moment pour parler de ça. Mais...
Ok, très bien. Bon, et écoutez, passez un excellent week-end et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao.
À bientôt.